Aujourd'hui, nous accueillons Olivier K. pour une conférence initialement prévue le 25 mars 2020, il y a 2 ans. Merci monsieur d'être parmi nous, merci monsieur de nous avoir été fidèles, et je tiens à dire que c'est monsieur K. qui m'a sollicité, parce que c'est un ami proche de André Callas, dont vous vous souvenez peut-être, et qui nous avait fait de très belles conférences, dont l'une nous avait particulièrement marqué et qui s'intitulait « Comment réparer le cerveau ». Monsieur, vous êtes neurobiologiste, physiobiologiste, c'est ça, physiologiste, c'est ça, physiologiste, je ne me trompe pas, directeur de recherche émérite au CNRS, et vous allez détruire une idée reçue, ce qui fait que vous allez nous redonner un petit peu d'espoir. En effet, vous allez nous annoncer une bonne nouvelle. Nous croyons, nous l'avez dit, que nous avions un capital de neurones et que dès notre âge adulte, eh bien, ils ne faisaient que disparaître. Eh bien, nous allons nous apprendre qu'il n'en est rien. Nous en sommes heureux et nous allons vous écouter.
Aïe. Bon. Eh bien, bonjour à tous. Tout d'abord, laissez-moi vous dire, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui, surtout après ces 2 années de pénitence que nous avons connues récemment. Alors, des bonnes nouvelles, oui, mais pas que, hein, malheureusement. Donc, je préfère le dire tout de suite. Effectivement, on va faire des neurones tous les jours, mais on va aussi en perdre tous les jours. Donc là, pour illustrer ma diapo de titre, j'ai mis un dessin d'un très grand anatomiste qui s'appelait André Vézal, qui était originaire de Bruxelles et qui a été parmi les premiers à décrire tous les organes du corps humain en long, en large et en travers, et qui est considéré comme vraiment le chef de file de l'anatomie de cette époque-là. Donc c'était il y a 500 ans à peu près, et depuis on a fait beaucoup de progrès sur l'organisation et le fonctionnement cérébral, évidemment. Mais ça fait quand même que quelques années qu'on a réalisé que, effectivement, notre cerveau fabrique des neurones tous les jours, et c'est un petit peu l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, pour commencer, un petit rappel sur le cerveau. Donc là, vous avez une coupe de cerveau. C'est une souris, c'est pas un être humain. C'est quelque chose qu'on a fait dans notre laboratoire. Et puis, ce cerveau, donc, quelques chiffres pour vous donner quand même une idée. Environ 1350 grammes, 2% du poids corporel, mais 20% des dépenses énergétiques du corps, 25% de la consommation de glucose, qui va servir à oxygéner nos 86 milliards de neurones, car c'est un chiffre maintenant qui est bien établi. On a environ 86 milliards de neurones dans le cerveau. Ces neurones établissent chacun environ 10 000 connexions avec d'autres neurones, ce qui fait 1 million de milliards de connexions. Vous voyez qu'on est vraiment en face d'une complexité tout à fait extraordinaire. Alors la région qu'on voit sur cette coupe, qui est encore une coupe de cerveau de souris, encore une fois, on voit ici le cortex cérébral, qui est la région vraiment qui nous rend à la fois si intelligents et si bêtes, qui est chez la souris, n'est pas plissée comme elle l'est chez nous. Et puis, en dessous de cette région, on a une autre région ici qui a une forme bien caractéristique que l'on appelle l'hippocampe. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Et puis, dans cette région, on a plusieurs sous-régions, notamment une ici dont on va beaucoup parler, qui s'appelle le gyrus dentelé. Alors, c'est des noms de neuroanatomie, hein, c'est pas moi qui les ai inventés. Ça s'appelle le gyrus dentelé et on va voir que cette région est une des régions qui produit beaucoup de neurones tous les jours, enfin beaucoup, qui produit des neurones tous les jours. Alors cet hippocampe, c'est pas n'importe quelle région dans le cerveau, vous savez que le cerveau est composé d'un très grand nombre de régions qui ont été décrites il y a déjà pas mal de temps, et ces régions, même si elles sont toutes connectées les unes aux autres, elles ont quand même des spécialisations, et l'hippocampe, lui, il est spécialisé dans l'acquisition de mémoire, de souvenirs, dans la navigation spatiale. C'est l'hippocampe qui vous permet d'imaginer quel itinéraire vous allez prendre pour aller d'un endroit à un autre, sur la base d'informations qu'il a déjà encodées. C'est une région donc hyper importante pour la consolidation de la mémoire, la discrimination des événements. Par exemple, tous les jours, vous allez vous garer à tel endroit. Comment faire pour ne pas vous mélanger dans vos souvenirs, ce qu'on appelle la discrimination. Vous rappelez qu'aujourd'hui, vous avez garé votre voiture-là, alors que vous l'aviez garée plus loin il y a 3 jours. Donc, c'est l'hippocampe qui fait tout ça. Le gyrus dentelé est une région qui joue un rôle fondamental dans l'établissement de ces connexions. Ce qu'on voit en bleu, c'est les noyaux des cellules qui sont dans cette région. Et vous les avez ici. On les voit beaucoup mieux sur un truc en couleur. Maintenant, il y a des techniques extraordinaires qui permettent de colorer les neurones, toutes les couleurs. Vous voyez que c'est une région où les corps cellulaires, c'est-à-dire les régions où il y a les noyaux des neurones, sont extrêmement serrés. Donc on va en parler un peu plus en détail. Donc je reviens à la croyance largement répandue qu'on essaie avec notre stock de neurones et puis qu'au fil des années, on ne peut qu'en perdre. Donc c'est quelque chose que vous avez tous entendu au moins une fois dans votre vie et qui est complètement faux. D'abord, on ne naît pas avec notre stock de neurones, on naît avec un cerveau qui est complètement immature et qui va continuer à se développer pendant des années, tant au niveau de la création de neurones qu'au niveau des connexions que ces neurones vont établir les uns avec les autres. Donc ça, c'est faux. Ce qui est vrai, par contre, c'est que le nombre va diminuer au fil des années. Mais on n'est pas dans cette situation où on perd des neurones et puis à partir de 45 ans, ça s'accélère et on finit par avoir un cerveau comme ça, plein de trous. C'est pas tout à fait non plus la réalité. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment on est passé de ce paradigme-là à un paradigme où on construit des neurones tous les jours pour essayer de continuer à faire fonctionner notre cerveau. Alors, il se trouve que l'hippocampe, cette région dont je vous ai parlé, le gyrus dentelé, c'est une des régions qui fabrique beaucoup de neurones durant toute la vie, y compris chez les sujets âgés, y compris chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Mais évidemment, on en fabrique de moins en moins au fil du temps, comme je vous le montrerai tout à l'heure. Ce que vous voyez ici, c'est une diapositive qui a été réalisée par mon ami Ariane Sharif à Lille, qui nous montre des neurones qui viennent d'être créés, toujours chez la souris. On ne fait pas ce genre de choses chez l'homme, malheureusement. Il y a peu de personnes qui sont volontaires pour se prêter à des expériences de ce type. Donc on est chez la souris et on a fait des manipulations génétiques et ces cellules marquées en rouge ici avec les noyaux qui sont là et puis ces magnifiques prolongements que l'on appelle des arbres dendritiques sont des neurones qui sont nés récemment au moment où on a fait l'expérience et on voit qu'ils ont commencé à faire ce qu'on appelle des dendrites, donc les régions sur lesquelles d'autres neurones vont venir établir des contacts synaptiques, des synapses qui vont permettre à ces neurones de recevoir de l'information d'autres neurones. Voilà. Donc, il n'en a pas toujours été ainsi. Ça, c'est des résultats récents. Ça fait environ une vingtaine d'années qu'on a découvert ces choses-là chez la souris. Et chez l'homme, ça ne date que d'il y a la conclusion à peu près définitive. Et là, quelques années, 2-3 ans, pas plus. Donc, vous voyez que c'est des choses tout à fait récentes. Alors pourquoi ce dogme selon lequel un cerveau adulte ne fabrique pas de neurones? Eh bien, on le doit à ce monsieur ici, Santiago Ramón y Cajal, qui est une star vraiment de la neurobiologie, qui a pratiquement inventé le cerveau à lui tout seul. Il a reçu le prix Nobel en 1906 en même temps que Camillo Golgi, un Italien, qui a inventé la méthode avec laquelle Santiago Ramón y Cajal a décrit le cerveau de l'homme et de tous les vertébrés. On voit ici Santiago en train de recevoir le prix Nobel des mains du roi de Suède. Et donc voilà. Donc un mot quand même sur Camillo Golgi, qui a eu le mérite d'inventer une technique tout à fait exceptionnelle, la technique qu'on appelle la technique de Golgi, ou la réaction noire, l'imprégnation à l'argent. Une technique qui est un peu bizarre parce que, figurez-vous que si vous immergez un cerveau que vous avez préalablement fixé pour pas qu'il se dégrade, vous l'immergez dans des sels d'argent. Ces sels d'argent vont être captés par certains neurones, mais pas tous. Et ça permet d'obtenir des images avec, comme celle-ci, avec une résolution exceptionnelle. Et ça, on en était incapable avant. Et si on ne sait pas pourquoi certains neurones se colorent et pas les autres, Si tous les neurones se coloraient, ici, la préparation serait toute noire. Donc, Carrel disait, la technique de Golgi permet de voir clair dans une forêt inextricable. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Et avec ce type de préparation, on peut après dessiner. Et vous voyez ici, on retrouve notre hippocampe avec notre gyrus dentelé dessiné par Camillo Golgi après avoir traité ses cerveaux avec ses selles d'argent. Donc Camillo Golgi, c'est une star, hein, il est bien vraiment connu. Il a également décrit l'appareil de Golgi qui sert à fabriquer des petites vésicules dans lesquelles nos cellules mettent des protéines. Alors Carrel, il était contemporain de Golgi. Un jour, il a entendu parler de cette méthode, il est allé l'apprendre, il l'a améliorée et il a fait un travail absolument considérable. Il a décrit tous les grands principes du fonctionnement du système nerveux à lui tout seul. Le sens de l'influx nerveux, le fait que le cerveau fonctionne sur un mode... que les neurones ne sont pas joints les uns aux autres, c'est des cellules séparées qui communiquent par le biais de synapses. C'est Carrel qui a décrit aussi pour la première fois le fait qu'entre deux neurones qui se touchent, il y a un petit espace qui est la synapse où l'information nerveuse va passer d'une cellule à l'autre. Il a également décrit les cônes de croissance des axones, comment les axones vont pousser pour aller rejoindre les régions où ils sont censés aller. Il a tout décrit. Et Carrel, c'était un artiste contrarié. Il voulait être peintre. Son père lui a dit pas question, tu fais médecine, après tu feras peintre. Bon, alors il a obéi. Après des études extrêmement pénibles, il était très dissipé, peu concentré. Il adorait la vie au grand air, il voulait toujours courir partout. Et les études, ça ne lui plaisait pas. Mais finalement, il a fini par devenir médecin et est devenu le neuroanatomiste le plus éminent de tous les temps. À l'heure actuelle, il est encore une star, Carrel. C'est rare, les scientifiques qui sont encore des stars, 100 ans après leur œuvre. En général, ils tombent rapidement dans les oubliettes de l'histoire. Alors Carrel, avec des instruments très simples, ici des couteaux pour faire des coupes, il traitait ses cerveaux aux selles d'argent. Après, il mettait les coupes sur des petites lames. Vous voyez, c'est tout noir, on ne voit rien. Mais si on s'approche, eh bien, il n'y a pas que du noir, il y a également... quelque chose d'ambré un peu qui permet de voir très bien les neurones qui sont marqués ici dans la rétine par exemple. Et après il dessinait. Carrel était un photographe, c'était un éminent photographe, il aurait pu faire des photos, mais il trouvait que dessiner à la chambre claire, donc la chambre claire c'est un tube qu'on met sur un microscope et qui vous permet de voir en même temps le papier sur lequel vous dessinez et la structure que vous êtes en train de dessiner. Alors avec le bout de votre crayon, vous suivez la structure et vous pouvez reconstituer très fidèlement ce qui se passe. L'intérêt de travailler à la chambre claire, c'est qu'on peut faire varier la mise au point et avoir utilisé toute l'épaisseur de la coupe, alors que la photo va vous donner une image nette seulement dans le plan focal. Voilà pourquoi Carrel a toujours dessiné plutôt que de faire des photos. Il a décrit les neurones, il a décrit les astrocytes, il a tout décrit. Les astrocytes sont des cellules qui sont également des cellules du système nerveux, mais qui ne sont pas des neurones, mais qui collaborent avec les neurones pour notamment les nourrir. Vous voyez, ils avaient ici des pieds entre un astrocyte et ça, c'est un vaisseau sanguin. Ils vont chercher l'oxygène ici pour l'apporter aux neurones et puis ça participe aussi au fonctionnement synaptique. Donc ces cellules-là qui ont des formes d'étoiles, on appelle ça des astrocytes, jouent des rôles très importants dans le cerveau. Donc il a tout décrit. Et évidemment, il a eu un poids sur la communauté scientifique considérable. Évidemment, personne ne voulait remettre en cause le travail de Carrel. Et c'est lui qui est responsable du dogme selon lequel notre cerveau est figé à la naissance. Carrel, que vous voyez ici, ça c'est un autoportrait, il faisait beaucoup d'autoportraits. Quand il s'embêtait dans son labo, il posait sa caméra et faisait une photo. Alors on a énormément de photos de Carrel en train de travailler dans son labo. Et il a décrit également, par exemple je vous montre ça, parce qu'il a décrit les plaques amyloïdes qui se forment dans les cerveaux atteints de la maladie d'Alzheimer, le cerveau en vieillissement. C'est également Carrel qui a décrit ça. Et il disait, le cerveau est quelque chose de fixe et d'inchangeable. Dans le cerveau, tout peut mourir, mais aucune cellule ne peut se régénérer. Bon, on sait maintenant que c'est faux. Mais encore une fois, le poids de la parole de Carrel était tellement important que les gens n'osaient pas trop revenir là-dessus. Ça a mis un certain temps. Bon, dans les années 1995-2000, le dogme de Cajal commence à s'effriter. Les premiers travaux montrent que chez la souris ou le rat, on a deux régions du cerveau qui fabriquent des neurones en grande quantité, y compris chez l'adulte, l'hippocampe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et la zone du ventricule latéral, qui chez les rongeurs envoie des nouveaux neurones vers les bulbes olfactifs. Je ne vous parlerai pas de ça, parce que c'est quelque chose qui est pratiquement inexistant dans l'espèce humaine. Ces deux régions ont leur équivalent chez l'homme, donc l'homme a un cortex beaucoup très développé, très plissé. On a ici en bleu l'hippocampe, je vous en reparlerai tout à l'heure, et puis ici le ventricule latéral. Et donc ces régions-là sont capables de fabriquer des nouveaux neurones toute la vie. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la diapo refuse de passer, ce qui est quand même très embêtant. On va essayer une autre méthode. Voilà, cela veut dire que le cerveau adulte renferme des cellules souches. Alors, les cellules souches, j'en avais déjà entendu parler, mais c'est toujours important de repréciser bien ce que c'est que le contexte et quelle importance ça a pour notre fonctionnement d'une manière générale. Alors, vous savez que vous êtes tous nés ici d'un œuf, hein, qui résulte de la somme d'un ovocyte et d'un spermatozoïde. Les chromosomes de papa et ceux de maman, qui se sont divisés par deux d'abord, se rejoignent et ça fait une cellule qui fait que vous allez être un individu unique, le seul de votre, sauf si vous avez un vrai jumeau. Donc ça, c'est une cellule, c'est ce que vous êtes au départ. Et ça, c'est ce que vous êtes à l'arrivée, même si vous ne faites pas des extravagances comme ça. Après, une période de développement et de croissance qui vous fait passer d'une cellule à, donc là, ça fait 40 000 milliards de cellules que vous avez à peu près dans votre organisme, qui sont organisées en 200 types cellulaires différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre cette époque-là et cette époque-là, il y a eu beaucoup de multiplication cellulaire, de prolifération. Et puis, comme il y a 200 types cellulaires, il y a également eu de la différenciation. Les cellules ne sont pas toutes pareilles. Elles vont se diversifier pour faire des organes, des cellules musculaires, des cellules de la rétine, des cellules du foie, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche? Ça répond à une définition très précise, une cellule souche. Une cellule souche, c'est une cellule qui peut faire deux types de divisions. Des divisions symétriques. Après, la cellule souche, elle se divise en deux et elle va donner deux cellules souches. D'accord? Ça permet d'augmenter le stock de cellules souches. Il en faut beaucoup pour faire les milliards de cellules. Hein. Et également, en réponse à certains signaux de l'environnement cellulaire, elles peuvent faire des divisions asymétriques. Et là, elles vont donner une cellule souche et une autre cellule qui va avoir la capacité de se différencier en d'autres catégories cellules, diverses catégories cellulaires. Voilà, c'est comme ça que vous vous êtes développé. Alors, comment ça se passe dans la vraie vie? Vous avez l'œuf ici, qui est considéré comme une cellule totipotente, parce que cette cellule-là va pouvoir générer tous les types cellulaires différents d'un organisme. Et puis, cette cellule, elle commence à se diviser. Au bout de 5 jours, ça forme un blastocyste, qui a des cellules en périphérie qui vont donner le placenta et les annexes embryonnaires, cordon ombilical, amnios, etc. Et puis la masse cellulaire interne qui comporte des cellules dites pluripotentes qui vont être capables de donner naissance à un organisme et à tous les types cellulaires qui composent cet organisme. D'accord? C'est clair? Hein? Alors comment ça se passe? Très vite, ces cellules ici vont s'organiser en 3 couches qu'on appelle l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. L'endoderme étant au milieu, ça va donner le tube digestif, l'ectoderme, ça va donner la peau et le système nerveux, le mésoderme, ça va donner le muscle, etc., le cœur, le sang, etc. Donc, déjà, à ce niveau-là, les cellules qui composent ces différentes couches, elles ne sont plus pluripotentes, elles ne vont plus donner que les types cellulaires qui sont générés à partir de ces 3 couches. Exemple, ici, donc, elles sont multipotentes. Elles vont donner des cellules qui vont devenir, elles, unipotentes, et puis qui vont donner naissance à des cellules spécialisées. Donc, jusque-là, les cellules peuvent se diviser, mais elles se divisent, elles prolifèrent, mais ne vont plus pouvoir donner que les cellules spécialisées de ce tissu-là. Donc, des neurones ici, de la peau, du cœur, des hématies, des os, ou alors dans l'endoderme, l'intestin, le pancréas. Une cellule de l'endoderme ne va jamais donner un neurone. D'accord? Sauf si on le manipule en laboratoire, ce qu'on peut d'ailleurs faire. Ok, c'est clair ça? C'est comme ça que vous vous êtes développé, c'est comme ça que vous êtes devenu ce que vous êtes. Alors maintenant, si on revient au cerveau proprement dit, Alors ici, on a l'embryon avec les trois couches, mésoderme, endoderme, ectoderme. L'embryon va faire une invagination, comme ça, et puis ça va créer ce qu'on appelle le tube neural. Donc ça, c'est le futur cerveau, avec au milieu les ventricules du cerveau. Vous savez que dans vos cerveaux, vous avez des cavités qu'on appelle des ventricules. Ce sont des trous dans lesquels il y a le liquide céphalo-rachidien qui circule. Et puis tout ça s'organise petit à petit. Ça, c'est des dessins et ça, c'est de la microscopie à balayage. Donc on congèle et on casse et ça permet d'obtenir des images très précises en relief des structures. Et ici, vous avez une image qui a été obtenue à Barcelone par un ami à moi qui vous montre ce stade-là, mais avec des cellules colorées, avec différentes techniques qui permettent de montrer tel ou tel type cellulaire. Votre cerveau, il est entièrement généré par les cellules qui, au départ, bordent ce tube nerveux, que l'on appelle les cellules neuroépithéliales. Donc ce tube, il va s'organiser, il va grossir dans certaines régions, il va commencer par faire 3 vésicules, puis 5 vésicules, et puis à la naissance, vous allez avoir un cerveau à peu près organisé, même si c'est loin d'être finalisé. Et donc tout ça, ça implique de la prolifération et de la différenciation. Les cellules vont migrer, vont s'organiser, vont se spécialiser un petit peu, vont exprimer tel ou tel canal à la surface des membranes, etc. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et dans ce processus extrêmement complexe de développement du système nerveux, il y a des cellules qui jouent un rôle fondamental que l'on appelle les cellules gliales radiaires. Ce sont les cellules magiques du cerveau, celles qui vont permettre de multiplier, ce sont les cellules souches, qui vont permettre de donner d'autres cellules gliales radiaires et puis qui vont permettre également de donner naissance à différents types cellulaires. Donc ces cellules, on les connaît depuis longtemps, elles ont été décrites, mais on ne savait pas à quoi elles servaient. Et même Ramón y Cajal les a décrites magnifiquement dans le cortex du lapin, ça c'est un cortex de lapin, avec, ici il y aurait un ventricule, et ça c'est la périphérie du cerveau, et on les appelle radiaires parce qu'elles sont organisées de manière radiaire, les prolongements ne se coupent pratiquement jamais, ils sont parallèles les uns aux autres. En 72, il y a un monsieur qui est arrivé sur le marché, qui s'appelait monsieur Rakis, qui a dit, attendez, ces cellules gliales radiaires, elles ont quelque chose de bizarre. De temps en temps, on voit des cellules qui sont accrochées au prolongement radiaire. Et en fait, il a dit que ces prolongements radiaires, ça servait à la migration de neurones qui naissaient dans cette couche-là, en périphérie des ventricules, pour migrer dans les couches profondes du cerveau. Il avait raison, sauf que ce qu'il n'avait pas vu, c'était que ces cellules-là étaient générées par les cellules radiaires, gliales radiaires elles-mêmes. Les cellules gliales radiaires vont donner d'autres cellules gliales radiaires et de temps en temps, un neurone qui part en migration sur le prolongement radiaire pour aller se mettre dans les différentes couches, par exemple du cortex. Vous avez le cortex à plein de couches et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, je vous montre comment ça se passe. Donc ici, on a notre tube nerveux. Ici, on aurait le ventricule. Ici, on a la périphérie du cerveau, et puis le cerveau va grossir au cours de différentes phases que vous avez ici, c'est le temps là. Et alors, on part avec les cellules neuroépithéliales qui sont là. Elles se divisent, elles se transforment en cellules gliales radiaires, c'est-à-dire qu'elles émettent ces grands prolongements radiaires qui traversent toutes les couches du cerveau, et là, elles commencent à générer des neurones. Hop, alors c'est compliqué, il y a des tas de conditions pour faire qu'elles fassent des neurones, mais on connaît très bien tout ça, on sait exactement pourquoi elles le font et quand elles le font. Ensuite, bon, ben, je suis encore bloqué, donc c'est embêtant. On va essayer comme ça, voilà. Donc, ces cellules, elles continuent à se développer, elles allongent leur prolongement radiaire, et puis, pour aller plus vite, pour fabriquer plus de neurones, elles produisent ce que l'on appelle des progéniteurs intermédiaires, c'est-à-dire des cellules qui ne sont pas encore des neurones, qui vont devenir des neurones, mais qui sont capables de proliférer très vite. Donc elles prolifèrent, elles prolifèrent, elles prolifèrent, et c'est ça qui va vous permettre de générer vos 86 milliards de neurones. Hein ? D'accord ? Petit à petit. Donc le processus continue. À la naissance, la plupart des prolongements radiaires se rétractent, et ces cellules deviennent, pour certaines, des astrocytes. D'autres restent en contact avec le ventricule, continuent à produire des progéniteurs, à donner des neuroblastes, des progéniteurs intermédiaires, des neuroblastes, qui sont des neuroblastes, c'est des jeunes neurones, et puis des neurones, et puis il y en a également qui vont donner un autre type cellulaire du cerveau, les oligodendrocytes, ce sont les cellules gliales radiaires, qui servent notamment à faire des gaines de myéline, qui permettent d'accélérer l'influx nerveux. Et puis le processus continue, on arrive ici chez l'adulte, la plupart des cellules gliales radiaires ont disparu, mais il en reste ici, dans certaines régions, et notamment dans l'hippocampe, des cellules qu'on appelle les cellules B, c'est comme ça qu'on les a, elles ont été décrites sous ce nom-là, elles sont toujours en contact avec le ventricule, elles établissent des contacts avec les vaisseaux sanguins, elles continuent à proliférer, et elles peuvent fournir des neuroblastes qui vont devenir des neurones, ou alors elles peuvent fournir également des progéniteurs d'oligodendrocytes. C'est comme ça que votre cerveau s'est développé, d'accord ? Alors j'attire votre attention sur ces cellules-là, qui sont des cellules gliales radiaires modifiées, des cellules souches, qui vont persister toute la vie, et vous en avez dans votre hippocampe, à l'heure actuelle, vous en avez, c'est elles qui vont vous permettre de générer des nouveaux neurones toute la vie. D'accord ? C'est clair ? Si vous pouvez poser des questions, on n'est pas nombreux. Voilà, donc c'est comme ça que votre cerveau se développe, et ça, c'est des résultats récents. Ce papier qui résume tout ça, il date de 2009. Il a été fait dans un très grand laboratoire de Arnold Kriegstein et Arturo Alvarez Bouya en Californie. Alors voilà, très bien, mais bon, est-ce qu'on peut faire ça chez l'adulte ? Alors les premiers travaux, on les doit à ce monsieur, là, Joseph Altman, qui travaille également en Californie d'ailleurs, et qui a écrit en 1962, vous voyez, ça remonte à loin déjà, un premier article, est-ce qu'il y a des nouveaux neurones formés dans le cerveau des mammifères adultes ? À l'époque, on n'avait pas de réponse à cette question. Et alors lui, il a eu l'idée d'utiliser une technique d'autoradiographie. Donc c'est basé sur l'utilisation de thymidine, je vais vous expliquer la technique tout de suite, tricier, c'est-à-dire marqué au tritium. Et donc, quand une cellule a capté de la thymidine tricier, elle va pouvoir être visible en autoradiographie. Il suffit de mettre une pellicule photographique dessus et on va avoir formation de grains d'argent. Donc cette technique, comment ça marche ? C'est une très jolie technique. C'est basé sur le fait que vous connaissez la structure de l'ADN. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. C'est cette fameuse double hélice et chaque brin de cette hélice est composé d'une suite de ce qu'on appelle des bases, et il y a quatre bases, thymidine, guanine, cytosine, adénine, qui sont dans un ordre bien précis, et qui sont ensuite lues trois par trois pour fabriquer les protéines. Mais ça, c'est une autre conférence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces cellules-là ? Quand les cellules se divisent, qu'est-ce qu'elles vont faire ? La première étape de la division cellulaire, ça va être de répliquer l'ADN. C'est-à-dire, l'ADN s'ouvre, et chaque brin va resynthétiser un brin complémentaire. D'accord ? C'est ce qu'on voit ici. Et si, au lieu de mettre de la thymidine ici, vous mettez de la thymidine marquée au tritium, donc vous injectez chez une souris, par exemple, de la thymidine tricier, qu'est-ce qui va se passer ? Quand le nouveau brin va être synthétisé, il va incorporer de la thymidine tricier. Donc le brin va devenir radioactif. Et quand les cellules ont fini leur division, ben vous vous retrouvez avec deux cellules filles qui ont de l'ADN marqué à la thymidine tricier. Et ça, c'est formidable parce qu'on sait le voir en microscopie. Je veux dire, on met un film photographique dessus et il va avoir formation de grains d'argent. C'est la magie de la photo. Donc c'est ça qu'il a fait, M. Altman. En 65, il a récidivé un autre papier très détaillé sur le rat où il montre que, on a plein de cellules qui se marquent à la thymidine tricier ici dans le gyrus dentelé, c'est-à-dire dans cette région de l'hippocampe dont je t'ai parlé tout à l'heure. Il a quantifié ce résultat et montré qu'au bout d'un certain temps, au début on a beaucoup de cellules marquées, puis au bout d'un certain temps ça se stabilise, etc. etc. Je ne rentre pas dans le détail. Le problème, c'est que les gens disaient, bon d'accord, c'est très joli, il y a des cellules qui prolifèrent dans le cerveau, mais qu'est-ce que c'est que ces cellules ? Et qu'est-ce qu'elles donnent ? Qu'est-ce qu'elles deviennent ? Est-ce que ça va être des neurones ? Ou est-ce que ça va être d'autres types cellulaires ? Vous comprenez le problème. C'est une question fondamentale qu'on aborde. C'est très important de savoir si le cerveau adulte peut donner des nouveaux neurones. Donc la communauté scientifique était très sceptique. Donc, là, on est en 65. En 1977, arrive la première indication que les nouvelles cellules pourraient être des neurones. Alors comment ils ont fait ça ? Un travail qui est très très célèbre, ça. Ils ont fait aussi, ils ont injecté de la thymidine tricier, mais au lieu de regarder avec un microscope photonique, ils ont regardé avec un microscope électronique. Le microscope électronique, ça permet de grossir énormément, de s'approcher des structures et de voir des détails qu'on ne voit pas avec un microscope normal. Donc pareil, on voit des petits grains d'argent sur cette cellule-là. Donc ça veut dire que cette cellule, elle a sédivisé il n'y a pas longtemps. Elle a capté la thymidine tritiée et elle est radioactive. Donc on s'approche de cette cellule ici. Et puis on découvre que ici, là où il y a ce rectangle, on voit cette image, pour quelqu'un qui fait de la microscopie électronique dans le cerveau, c'est l'indication qu'il y a un contact synaptique entre un axone ici et puis une cellule qui est forcément un neurone, c'est-à-dire que les neurones qui reçoivent des contacts synaptiques. Donc ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit sur ce schéma ici, un prolongement axonal qui vient établir un contact synaptique avec un neurone. C'est là qu'on va libérer les neurotransmetteurs qui vont servir à la transmission de l'influx nerveux d'une cellule à l'autre. Donc ça me suggérait très fortement que cette cellule qui avait capté la thymidine tritiée était un neurone. D'accord ? Vous avez compris ? Bon. Alors après, on passe aux oiseaux. Les oiseaux ont été très utilisés dans la thématique de la neurogénèse adulte. Pourquoi ? Parce que certains oiseaux, et notamment les oiseaux chanteurs, je vais vous expliquer ça dans une seconde, ils détruisent leurs neurones qui sont impliqués dans le chant tous les ans, et ils les reconstruisent tous les ans. Alors c'est Arturo Alvarez Buya qui a montré ça avec Fernando Notobaum. Lui, c'est un Argentin, lui, c'est un Mexicain. Ils travaillent tous les deux au Salk Institute. Ah non, pardon, il était à Rockefeller, excusez-moi. Maintenant, lui, travaille au Salk Institute en Californie. Ils ont montré que chez les oiseaux, il y avait des neurones qui migraient dans le cerveau adulte. Alors pourquoi cette migration ? Eh bien parce que les oiseaux chanteurs, donc il y a des groupes d'oiseaux qu'on appelle les oiseaux chanteurs, qui chantent, mais certaines espèces, comme celui-là, le serin des Canaries, il n'y a que les mâles qui chantent. Les mâles chantent et ils chantent seulement au printemps. Ça veut dire, oh, je suis là, c'est mon territoire, et toi, la poulette là-bas, viens voir ici. Je suis le plus beau du coin, etc. Enfin, c'est un peu le même genre que les gars qui font le tour du village avec leur mobilette au printemps. C'est exactement le même principe. Et dans tous les cas, c'est la testostérone qui joue un rôle là-dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Là, on a le cycle de la saison de reproduction chez les oiseaux. Ils se reproduisent là où c'est vert et ils sont en repos sexuel là où c'est rouge. À ce moment-là, le soleil, via la rétine, via l'hypothalamus, va stimuler la production des gonades et notamment la production de testostérone. J'en profite pour dire que c'est un Français qui a montré cet effet de la lumière sur le développement des organes génitaux chez les oiseaux, un monsieur qui s'appelle Jacques Benoît, qui travaillait à Montpellier, et puis un monsieur, je ne me souviens plus du nom de son copain. Bon, peu importe. Donc, augmentation de la testostérone avec la longueur du jour. La testostérone augmente le nombre de neurones dans un centre impliqué uniquement dans le chant, qu'on appelle le haut centre vocal, qui est une région qui est bien identifiée chez les oiseaux. On constate qu'à ce moment-là, il y a une augmentation du nombre de neurones et une activation de tout un tas de gènes qui permettent de produire des neurones. Et puis, ensuite, ça va stimuler le chant, donc l'activité de chant, la durée du chant et le patron du chant, c'est-à-dire sa complexité, etc. D'accord ? Et puis après, la durée du jour diminue, la testostérone baisse. Ces noyaux-là, une bonne partie dégénère, on perd des neurones, on active des gènes de mort cellulaire, on a des gènes qui sont spécialisés pour tuer certaines cellules, ce qu'on appelle l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Et là, le champ va diminuer, l'activité du champ va diminuer. Et on passe d'une saison de reproduction, on a 250 000 neurones dans ce haut centre vocal, à un système où il n'y en a plus que 150 000. Et ça, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Parce que ça veut dire que ces oiseaux-là, durant l'hiver, quand ils ont besoin de... La nourriture est rare, ils ont besoin de garder leur énergie. Au lieu de gaspiller leur énergie à faire fonctionner des neurones, ils les détruisent. Ben, c'est pas volontaire, hein, ça se fait tout seul. Et puis, au printemps suivant, la nourriture devient plus abondante. Hop, ils se remettent à fabriquer des neurones, à commencer à chanter, et tous les ans, ils vont changer leur chant. Et ils vont tous chanter différemment. Je trouve ça absolument magique. Et imaginez, si vous êtes un oiseau qui migre, qui a besoin de plein d'énergie pour faire sa migration, ben, au lieu de transporter des neurones en quantité, il en transporte moins, puis quand il est arrivé, hop, il va fabriquer des neurones. Moi, je trouve ça magique. Bon, enfin, bref, c'est comme ça. Donc, ces oiseaux chanteurs, ils ont quand même pas mal stimulé l'imagination des neurobiologistes. Et alors, évidemment, les gens disaient, mais attendez, c'est des oiseaux, là, on ne parle pas de l'homme, ni de la femme, hein. On ne sait pas si c'est pareil chez nous. Et c'est vrai, d'ailleurs, c'est à juste titre. Personne, aucun humain ne fait ça, hein. Détruire ses noyaux du champ au printemps, en automne, et les reconstruire au printemps. On ne fait pas ça, nous. On n'a pas de reproduction saisonnière. Chez l'homme, il n'y a pas de reproduction saisonnière. Pardon, chez l'homme. Je devrais dire chez Homo sapiens, parce que l'homme, c'est un peu sexiste. Hein. Bon. Alors, en 1999, il y a cette jeune personne, Elizabeth Gould, qui a publié un premier article chez un singe. C'est un singe rhésus. Elle a montré que dans le cortex de cet animal adulte, elle était capable de voir des cellules qui venaient de se diviser et de donner des neurones. On a des techniques qui permettent d'affirmer ça. Ce sont des techniques très solides, très bien établies dans les laboratoires de recherche, et on est parfaitement capable de dire cette cellule-là, elle s'est divisée à ce moment-là quand on a injecté quelque chose, et puis elle est devenue un neurone. D'accord ? Donc, ça a été déjà plus stimulant parce que chez le singe, on se rapproche quand même un petit peu de la lignée humaine. Et alors après, ça a été l'escalade. Ça, c'est une page d'un site internet qui est une banque de données, une base de données bibliographique. D'ailleurs, vous rentrez des mots-clés. Là, j'ai rentré « adult neurogenesis », »,« neurogenèse adulte ». Et puis, il va me sortir tous les articles qui ont été publiés sur ce sujet-là. D'accord ? Sans exception, il n'en oublie aucun. C'est la base de données principale utilisée par les scientifiques. Et là, il m'a trouvé, ça c'est quelque chose que j'ai fait il n'y a pas longtemps, il m'a trouvé 12 438 articles. Ça veut dire que sur ce sujet-là, adult neurogenesis, il y a eu 12 438 articles publiés entre 1957 et 2022. Donc vous voyez une augmentation, enfin un nombre considérable d'articles. Et si on regarde la répartition dans le temps, on voit qu'ici, on a tout d'un coup une augmentation très forte. Qu'est-ce qui s'est passé en 1991? Il s'est passé que cet article-là est apparu dans la littérature. Alors, qu'est-ce que dit cet article? C'est une nouvelle technique. C'est un peu comme la thymidine tricier, mais au lieu d'utiliser de la thymidine tricier, on utilise un analogue de la thymidine qu'on appelle la BRDU, 5-bromo-2'-déoxyuridine, qui va s'incorporer, pareil, à l'ADN au cours de la synthèse du brin complémentaire. Et l'avantage de ce BRDU, c'est qu'on peut la réveiller, la voir sur des coupes avec une technique qui est très utilisée dans les laboratoires de recherche, que l'on appelle l'immunohistochimie. C'est-à-dire qu'on va utiliser un anticorps dirigé contre la BRDU, on le met sur la coupe, on lave, on révèle cet anticorps avec diverses techniques, fluorescence ou n'importe quoi, et on peut dire, tiens, cette cellule-là, elle a incorporé la BRDU. D'accord ? Hein ? Donc ça vous est expliqué sur cette diapo. C'est pareil que tout à l'heure, l'ADN va s'ouvrir, on va mettre la BRDU, donc on injecte la BRDU à la souris, au jour zéro, par exemple, et puis cette BRDU va s'incorporer au bras complémentaire, et quand les cellules se divisent, vous avez des cellules filles dont l'ADN contient de la BRDU que l'on peut révéler avec des anticorps. D'accord ? Donc on va pouvoir dire, cette cellule-là, qui est colorée par telle ou telle technique, c'est une cellule qui a incorporé la BRDU après qu'on l'ait injectée. D'accord ? C'est clair ? Alors, cette technique-là, elle est bien supérieure à la technique d'autoradiographie tout à l'heure, parce que ça veut dire que les cellules, si elles ne se redivisent pas après, elles vont rester marquées en permanence. L'ADN va garder la BRDU, et donc on va pouvoir, en faisant des expériences bien conduites, suivre la destinée de ces cellules. Pourquoi ? Parce que si vous injectez la BRDU au jour zéro et que vous tuez vos animaux, vous les sacrifiez, on dit sacrifier, c'est plus correct, au jour 1, ça, on les endort hein, toujours, les animaux, ils ne souffrent pas, on leur donne un coup de... Et on va pouvoir dire, dans les 24 dernières heures, il y a des cellules qui se sont divisées. D'accord ? Mais si vous attendez plus longtemps, et que ces cellules qui se sont divisées se transforment en d'autres types cellulaires, comme des astrocytes, des oligodendrocytes ou des neurones, et que vous avez des anticorps qui sont typiques de chacune de ces catégories cellulaires, vous allez pouvoir suivre la destinée des cellules qui se sont divisés au jour 0, mais que vous regardez au jour 30. D'accord ? Or, on sait très bien faire ça dans les labos de recherche. On a des anticorps dirigés contre des protéines, des astrocytes. Par exemple, ici, c'est des astrocytes marqués par une protéine qui s'appelle la GFAP. Ici, c'est des cellules de Purkinje dans le cervelet, marquées par une protéine qui s'appelle la parvalbumine, qui n'est exprimée que dans ces cellules-là. Et puis ici, c'est une protéine qui s'appelle la mestine, qui est exprimée dans les progéniteurs, c'est-à-dire les cellules qui vont, les cellules souches du cerveau, si vous voulez. Hein, d'accord ? Donc on sait reconnaître ça. On sait aussi fabriquer des animaux génétiquement modifiés qui vont exprimer de la fluorescence dans les cellules souches du cerveau. Donc ce que vous voyez là, c'est un gyrus dentelé de souris chez une souris transgénique qui va exprimer, en même temps qu'elle exprime de la mestine, elle va exprimer de la fluorescence. On a fabriqué une construction qui permet de faire ça et on se retrouve du coup avec une souris qui va fabriquer qui a des cellules souches qui sont marquées par la fluorescence. D'accord ? C'est ce qu'on voit sur cette photo-là. Ça, c'est un article qui a été très important, publié en 2007. Nous, on a fait la même chose dans notre labo, mais nous, on travaille chez les poissons. Bon, je ne vous explique pas pourquoi les poissons, mais on a fait la même chose. On a ici des cellules souches de cerveau de poisson qui sont marquées par une protéine fluorescente. Ça marche très, très, très bien. D'ailleurs, ce test, maintenant, il est validé par la communauté européenne pour détecter certaines catégories de perturbateurs endocriniens. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre conférence. Alors, ça, c'est formidable, tous ces progrès. Et il y a encore une chose qui est absolument formidable aussi, qui a été très importante, ça a été les progrès de la microscopie, et notamment de la microscopie de fluorescence. Ici, vous voyez les cellules de Purkinje, c'était ces grosses cellules marquées en rouge que je vous ai montrées tout à l'heure. C'est parmi les plus grosses cellules du cerveau, et ça a été les premières cellules décrites par les neuroanatomistes. À l'époque, c'était Purkinje, qui a d'ailleurs donné son nom à ces cellules qu'on appelle les cellules de Purkinje. Ça, c'est le premier dessin de cellules nerveuses qui ait jamais été produit, 1837, présenté à un congrès à Berlin. Et ça, c'est le microscope de Purkinje. Pas terrible, hein. C'était un bon microscope, mais pour les images, ce n'était pas la gloire. Et puis, il y avait une autre chose qui a été importante, ça a été le développement de techniques qui permettaient de conserver les tissus en bon état. Et ça, ça a fait des progrès constants au fil des ans. Encore maintenant, ça fait des progrès. Là, vous avez la même zone, les cellules de Purkinje, dessinées par Ramón y Cajal. Je vous ai déjà montré à peu près la même région tout à l'heure. Et ça, c'est un des microscopes de Ramón y Cajal, qui est au musée Cajal à Madrid. Et c'est un microscope déjà beaucoup plus sophistiqué, avec des objectifs achromatiques qui donnent des bien meilleures images, qui ont permis à Cajal de produire tous les milliers de dessins qu'il a produits. Et ça, c'est ce que vous voyez avec les microscopes de maintenant, ce qu'on appelle des microscopes confocaux. Ça ressemble plus tellement à des microscopes d'ailleurs, et vous voyez les mêmes cellules marquées avec ici deux techniques de fluorescence en rouge ou en... Alors évidemment, avec tous ces progrès, on a pu capitaliser sur les connaissances qui se sont accumulées au fil des années pour arriver à la conclusion que chez les rongeurs de laboratoire, c'est parfaitement clair que la neurogenèse hippocampique, ça existe, c'est-à-dire que dans l'hippocampe des rongeurs, il y a des tas de cellules qui sont fabriquées tous les jours. Voilà ici des images. Bon, c'est un processus qui est très étudié, qui est très bien connu maintenant. La question, c'est, est-ce que c'est pareil dans l'espèce humaine? Alors là, la réponse a été beaucoup plus longue à obtenir. On a eu une première indication en 1998 du laboratoire de Fred Gage, c'est quelqu'un qui est très connu dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'il a fait? À l'époque, il y avait des gens qui étaient traités, injectés avec de la BRDU, des gens qui avaient des cancers, et après on faisait des biopsies et on regardait si on voyait des cellules qui proliféraient dans la tumeur qu'ils étudiaient, d'accord? Mais la BRDU, elle se répand dans tout le cerveau. Et ce qu'il a fait, Fred Gage, avec son équipe, c'est qu'il a récupéré des cerveaux de patients qui avaient été injectés à la BRDU avec l'autorisation des familles et évidemment à la mort des patients. Et il a regardé s'il pouvait retrouver cette BRDU dans le cerveau. Et voilà l'article 1998, qui est la première démonstration que certaines cellules du cerveau expriment la BRDU, ce qui veut dire qu'elles sont divisées après l'injection du patient par la BRDU. Bon, c'était une indication, mais ce n'était pas la preuve absolue. Et là, je vais vous montrer un article, alors moi je le trouve absolument extraordinaire. C'est un article qui a décrit très en détail la fabrication de nouveaux neurones tout au long de la vie chez l'homme. Alors, le principe, c'est d'utiliser le carbone 14. Carbone 14 qui a été libéré en très grande quantité dans l'atmosphère durant la période 53-63, quand il y a eu beaucoup d'essais de bombes atomiques dans la haute atmosphère. Après, on a fait des essais souterrains. Donc, on mettait plus de carbone 14 dans l'air. Donc, il y a eu une période où il y a eu beaucoup de carbone 14 dans l'atmosphère. Carbone 14 qui s'est marié à de l'oxygène pour faire du gaz carbonique, qui a été capté par les plantes, qui ont été mangées par les animaux. Et du coup, on retrouve le carbone 14 dans les animaux, dans les cellules des animaux. Et l'idée de cette manip, qui n'a pas concerné que le cerveau, ils ont travaillé sur tout l'organisme, c'est de se dire que à chaque période, donc c'est que le carbone 14, ça diminue au fil du temps, et donc au fil des années, on avait de moins en moins de carbone 14 dans l'atmosphère, et la quantité de carbone 14 qu'on retrouve chez les animaux est également liée à la décroissance du carbone 14 dans l'atmosphère. C'est un reflet de la quantité de carbone 14 que vous avez dans l'atmosphère. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils ont pris des hippocampes humains, chez des personnes décédées bien sûr, hein, toujours pareil avec l'autorisation, etc., des familles, et ils les ont soumis à des compteurs pour voir la quantité de radioactivité qu'ils trouvaient dans ces cellules. D'accord? Et donc, les cellules, elles incorporent le carbone 14 quand elles se divisent. Hein. Donc voilà. Et avec ça, ils ont généré ces courbes qui sont extrêmement intéressantes. Je vais vous montrer en plus grand détail, parce que j'ai fait un agrandissement de ça, parce que là, c'est pas très net. Et encore une fois, je suis bloqué. Voilà. Donc, voilà les résultats qu'ils ont montrés. Bon, ils ont montré des tas de choses. Hein. C'est un article extrêmement détaillé, extrêmement riche. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette figure? On voit ici le nombre de neurones en millions dans l'hippocampe humain. Et ici, on voit l'âge des sujets. Vous voyez, ils ont travaillé sur des sujets de tous les âges. Il y a au minimum 13 sujets par stade, jusqu'à des sujets qui avaient plus de 100 ans. Et on voit ici des courbes de différentes couleurs. Alors, en bleu comme ça, c'est des neurones de l'hippocampe qui ne se divisent pas. Et on voit qu'avec le temps, on en a de moins en moins. Ça, c'est les neurones qu'on a à la naissance, au départ. Et puis, avec le temps, ils disparaissent. Et puis, à la fin, on n'a pratiquement plus aucun des neurones qu'on avait au départ. D'accord? Et puis ensuite, pour des classes d'âge de 10 ans, par exemple, entre 0 et 10 ans, ils ont regardé la quantité de neurones générés dans ce cerveau, toujours en se basant sur la décroissance du carbone 14. Et alors, par exemple, si vous prenez un sujet qui a 30 ans, donc il va avoir dans son hippocampe toutes ces cellules-là qui ont été générées à la naissance, elles existaient déjà, plus toutes ces cellules-là qui ont été générées entre 0 et 10 ans, hein, c'est les neurones, cellules qui ont été générées ici, plus les cellules qui ont été générées entre 10 ans et 20 ans, correspondent à cette période-là, plus les cellules qui ont été générées entre 20 et 30 ans. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Et donc, on voit que, finalement, on a une espèce de renouvellement de ces neurones de l'hippocampe tout au long de la vie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous gagnons des neurones toute la vie. Parfait. Malheureusement, nous perdons des neurones toute la vie. On voit très clairement que toutes ces courbes descendent et qu'on en perd plus que nous n'en gagnons. Hein? Et nous en perdons plus que nous n'en gagnons. Donc, très très joli travail qui a commencé à convaincre les gens que la neurogénèse adulte existait chez l'homme. Manque de peau, en 2018, le laboratoire de Krickstein et de Alvarez Buia publie cet article dans Nature. Nature, c'est le grand journal scientifique. Hein, c'est... Et ils nous disent que, à partir de l'âge de 13 ans, on voit plus de nouveaux neurones dans l'hippocampe. Catastrophe, tout le monde, plus personne ne savait quoi penser. Et donc, motus sur le sujet, il y a tout un tas d'hypothèses qui ont été formulées, mais. Et puis hop, 2019, un an après, on a un travail espagnol, très bien fait, qui montre que non, c'est pas vrai, la neurogénèse adulte existe bel et bien chez l'homme après 13 ans. Et c'est un travail très convaincant. Et comment ils expliquent ces différences entre les deux études? Uniquement sur les conditions de préservation des tissus humains. Quand vous travaillez sur un cerveau humain, vous travaillez sur un cerveau post-mortem. La personne est morte. et en fonction des conditions dans lesquelles les cerveaux sont gardés, des substances que vous allez utiliser pour préserver ces cerveaux, vous allez plus ou moins préserver les antigènes sur lesquels vont se fixer les anticorps quand vous allez faire vos expériences. Et donc, ils ont fait un article très détaillé qui montre que, ben voilà, ici, une belle cellule qui exprime un marqueur qui s'appelle double cortine, qui n'est exprimé que dans les progéniteurs neuronaux. Voilà, donc on fait ça, et puis on compte, ils ont compté, ils calculent, etc. C'est des travaux très très fournis, c'est pas seulement une image. Voilà, donc, ça semble suggérer que, effectivement, on fabrique des neurones toute la vie. Dans l'hippocampe. Et puis il y a aussi quelques autres régions, j'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, des nouveaux neurones, d'accord, mais pourquoi faire des nouveaux neurones? Eh bien, on considère maintenant que c'est une nouvelle forme de plasticité cérébrale. Avant, on savait qu'en fonction de tel ou tel exercice, par exemple, les conducteurs de bus à Londres, ils ont une partie du cortex qui sert à la navigation dans l'espace qui est hypertrophiée. Les pianistes ont une autre région qui est hypertrophiée, parce que quand on fait travailler une région, eh bien, on va renforcer les connexions, etc. Et donc, la région a tendance à grossir. Donc, parlons un peu de l'hippocampe plus en détail. Pourquoi ça s'appelle l'hippocampe? Parce que chez l'homme, si on le dissèque entièrement, il a cette forme-là. Et ça rappelle très fortement un hippocampe. Voilà la raison pour laquelle on appelle ça l'hippocampe. Alors, je vous ai parlé de la souris de l'homme. Ces deux régions existent chez les deux espèces. Chez la souris, l'hippocampe est plus dorsal parce que le cortex n'est pas plissé. Chez l'homme, le cortex est très plissé. Ça permet d'augmenter la quantité de régions qui vont pouvoir générer des nouveaux neurones. C'est encore une imagination formidable de la nature et de l'évolution qui s'est dit, tiens, on va plisser pour faire plus de neurones. Et on voit que ces régions-là, elles ont la même organisation chez les deux espèces. Vous avez ici le gyrus dentelé que je vous ai montré tout à l'heure, et ici le gyrus dentelé chez l'homme. Alors, on connaît très bien cet hippocampe. Ça, c'est la technique de Golgi. Ça, c'est ce que je vous ai montré. C'est de la fluorescence. Ça, c'est les nouveaux neurones qui apparaissent chez la souris transgénique. Ça, c'est après injection de BRDU. On voit que dans ce gyrus dentelé, on a plein de neurones marqués qui apparaissent. Là, on marque les noyaux. La BRDU s'incorpore à l'ADN, donc c'est dans les noyaux des cellules. Et puis ici, c'est la genèse de nouveaux neurones avec ces magnifiques arbres dendritiques ici, sur lesquels vont venir se faire des contacts nerveux. Alors, ce processus de neurogenèse adulte, il prend du temps. On a calculé qu'il prend de l'ordre de 2 à 4 semaines. Donc on part de ces fameuses cellules B que je vous ai montrées au départ, qui résident ici. Ce sont des cellules gliales radiaires un petit peu transformées. Elles sont capables de donner des progéniteurs qui prolifèrent. Et puis au bout d'un certain temps, on va avoir des nouveaux neurones qui vont naître, qui vont peut-être se différencier, donner des prolongements pour finir comme ça avec des contacts dans les zones voisines de l'hippocampe, notamment la région CA3, qui va servir après à passer l'information au cortex. Et ce qu'on voit, c'est la durée de ces périodes ici, donc 25 heures pour la prolifération, 4 jours pour arriver là, et puis 2 à 4 semaines pour arriver là. Et ce délai, il est important parce qu'il a permis de comprendre une chose, c'est pourquoi des antidépresseurs, des fois vous êtes déprimé, on vous donne des antidépresseurs, et puis vous prenez des antidépresseurs une semaine, 15 jours, il ne se passe rien du tout, ça ne va pas mieux. Et en fait, maintenant, on sait que ces antidépresseurs, enfin certaines classes d'antidépresseurs, vont agir sur la neurogénèse adulte, va servir à relancer l'activité neurogénique, et ça prend de l'ordre de 3 à 4 semaines. Et donc, c'est pour ça que ces antidépresseurs, on voit les effets après un assez long moment. Alors, vous voyez, on voit ici des cellules qui viennent d'être nouvellement générées, et on voit qu'au bout de 16 jours ici, ils commencent à faire des arbres dendritiques. Je rappelle, ces arbres dendritiques, c'est fondamental. C'est là où vont venir s'établir des connexions. Et puis ici, c'est 28 jours, et on voit des connexions beaucoup plus importantes, des arbres dendritiques beaucoup plus importants. Alors, c'est super, on fabrique des nouveaux neurones. Le problème, c'est que il y a beaucoup de nouveaux neurones qui sont générés, mais il y en a beaucoup qui meurent. Il y en a beaucoup qui meurent, et puis il y en a beaucoup qui ne deviennent jamais des neurones, parce qu'ils vont donner, par exemple, des astrocytes. Mais on sait très bien qu'à toutes ces phases ici, de maturation vers des nouveaux neurones, on a ce qu'on appelle de l'apoptose, c'est-à-dire de la mort cellulaire programmée. Beaucoup de ces cellules vont mourir en cours de route. D'accord ? Et d'autres vont devenir des astrocytes. Bon, mais c'est ce qu'on sait maintenant. Hein. Tous ces travaux-là, ils ont 10 ans ou 15 ans, hein, pas, ou 5 ans, pas plus. Hein. C'est des travaux très récents. Alors, ce qu'on a montré, c'est que ça existe chez tous les vertébrés. Et juste pour signaler un petit peu le travail qu'on a fait dans notre laboratoire, nous, on a montré que chez les poissons, il y a une activité neurogénique extrêmement importante dans le cerveau, y compris chez les adultes. Pourquoi ? Ben parce que les poissons, c'est pas comme nous. Nous, on fait notre croissance, on devient adulte et on va se reproduire. Mais les poissons, ils vont commencer à se reproduire quand ils sont tout petits, puis après, ils vont continuer à grandir. Et donc, la notion d'adulte, si vous voulez, chez les poissons et chez nous, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, comme ils font de la croissance tout au long de la vie, il faut qu'ils fassent de la neurogenèse tout au long de la vie, qu'ils fassent grossir leur cerveau tout au long de la vie, comme ils font grossir leurs muscles, etc. Et donc, ce qu'on a montré, nous, c'est que les cellules gliales radiaires qui disparaissent à la naissance chez les mammifères, eh ben, elles persistent chez le poisson adulte, vous les voyez ici, belles cellules gliales radiaires, et dans tout le cerveau, ça c'est différents niveaux du cerveau, et on a montré également que ces cellules-là, après, elles se mettent à migrer le long des prolongements radiaires, comme je vous ai montré tout à l'heure chez l'homme, et elles deviennent des neurones. Donc voilà pourquoi le cerveau de poisson a cette activité neurogénique très importante chez les adultes, et pourquoi ils sont capables de faire grossir leur cerveau beaucoup plus que nous chez l'adulte. Alors à quoi ça sert tout ça ? Les gens disent que cette neurogénèse adulte, c'est le fonctionnement normal d'un hippocampe. On a pu s'apercevoir que, par des techniques, je vous en montrais juste une expérience tout à l'heure pour vous montrer comment travaillent les scientifiques, on a pu montrer, en faisant des tests, qu'il y a des relations entre l'activité neurogénique et des performances cognitives, notamment navigation spatiale, on se représente mieux l'espace, rétention de la mémoire spatiale à long terme. Vous allez vous rappeler longtemps de tel ou tel itinéraire que vous avez effectué plusieurs fois. Séparation de patterns, donc ça c'est la séparation d'événements qui se ressemblent, mais que vous avez vécu plusieurs fois, et ça vous permet de ne pas les confondre. Consolidation de la mémoire aussi. L'hippocampe, il n'y a pas que l'hippocampe qui participe à la formation de la mémoire, il y a d'autres régions qui sont importantes, notamment dans le cortex. Et puis également, ça participe à l'effacement de traces mnésiques, ça c'est des souvenirs qui n'ont pas trop d'importance, et que vous éliminez, vous ne vous souvenez pas de tout ce que vous avez vécu dans votre vie, sinon c'est que vous êtes vraiment très très performant. Voilà, et tout ça on pense que ce sont des mécanismes qui vont permettre aux animaux de s'adapter en permanence à un environnement qui lui change. Pour survivre dans l'environnement, que vous soyez une mouche, que vous soyez un asticot, enfin un ver de terre ou un être humain, il faut que vous adaptiez à votre environnement. C'est une fonction absolument nécessaire à la survie des espèces. Donc, grâce à ces mécanismes-là, le cerveau est capable de réagir à des nouvelles conditions de l'environnement. Alors, on connaît un certain nombre de facteurs qui stimulent la neurogénèse adulte. Et ça a été très étudié. Je vais vous montrer juste une expérience pour vous montrer comment travaillent les chercheurs. Donc, on sait que l'exercice physique, c'est très important. Mais ça, vous le savez tous. On vous dit tout le temps, votre docteur vous dit, faites de l'exercice, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour tout. C'est bon aussi pour la neurogénèse adulte. Les milieux enrichis. Qu'est-ce que c'est un milieu enrichi ? Chez la souris, un milieu enrichi, c'est une cage où on va mettre des toboggans, des roues. Les souris adorent courir dans des roues, les rats aussi. Et puis on leur met des copains, enfin bref, c'est ce qu'on appelle un milieu enrichi. Vous ne mettez rien dans la cage, ce n'est pas un milieu enrichi. Là, vous êtes en milieu enrichi. Vous avez des interactions sociales, vous m'écoutez, vous apprenez de nouvelles choses, votre cerveau fonctionne. Vous êtes en milieu enrichi par rapport au gars qui est dehors, qui regarde juste un mur et qui ne fait rien du tout. D'accord ? Certaines hormones, notamment les estrogènes, c'est un peu embêtant parce que les estrogènes avec l'âge, les estrogènes, stimule la neurogénèse adulte, ça a été très bien montré chez les rats et les souris, chez la femme ça n'a pas été montré, c'est trop difficile à étudier. L'apprentissage, quand vous faites une manœuvre d'apprentissage, quand vous apprenez quelque chose, ça va stimuler la neurogénèse adulte. Pourquoi ? Parce que cet apprentissage va stimuler des connexions entre des neurones qui sont en train de se développer et des neurones avoisinants, et donc ça va renforcer les synapses, et quand on renforce les synapses, on les stabilise. Une synapse qui ne travaille pas, elle est détruite. Une synapse qui travaille, elle est conservée. D'accord ? Les antidépresseurs, bon, j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure. L'ischémie cérébrale, quand vous avez un accident vasculaire cérébral, vous avez une zone qui dégénère, ce qu'on appelle une ischémie. Et là, vous allez avoir la naissance de nouveaux neurones aux alentours. Le problème, c'est que ces nouveaux neurones ne servent pas à grand-chose. Mais bon, je vais vous en dire un mot tout à l'heure. Et puis, certains régimes alimentaires sont favorables. Donc, pour l'activité physique, je vais vous détailler une expérience qui va vous aider à comprendre comment on travaille dans un labo. Donc, là, c'est un travail qui est très, très célèbre, hein, qui a été fait en 2005, dans lequel il montre que l'activité physique améliore l'apprentissage et la neurogénèse hippocampique chez les souris, y compris les souris âgées. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 4 groupes d'animaux, c'est des souris, donc des jeunes, qui ont 3 mois, qui n'avaient pas de roue dans leur cage, donc ils ne peuvent pas faire d'exercice physique. Les souris, vous leur mettez une roue, elles courent toute la journée. C'est automatique, hein. Elles adorent ça. Vous leur mettez une roue, donc elles vont courir. Vous prenez des vieilles souris, 18 mois, ça c'est des souris qui vivent 26 mois. Donc à 18 mois, elles sont déjà assez âgées. Celles-là, elles n'ont pas de roue. Et puis le quatrième groupe, c'est des vieilles souris, mais qui ont des roues. Hein? Et après, on va les sacrifier, mais avant de les sacrifier, on va leur faire passer des tests qui permettent d'évaluer la mémoire, la capacité à se reconnaître dans l'espace. Alors comment on fait ça? On utilise un labyrinthe, la piscine, ce qu'on appelle la piscine de Maurice. Donc c'est un bac dans lequel on met de l'eau avec un petit peu de régilet en poudre pour colorer l'eau. Et dans ce bac, il y a ici une petite plateforme qui est un endroit où si jamais il y a une souris dans le bac qui nage, elle va pouvoir se poser et avoir pied. D'accord? Et puis vous voyez que sur les bords du bac, vous avez des marques de couleurs. Alors on va mettre les souris là-dedans et on va mesurer à quelle vitesse elles vont trouver... ça j'ai la musique, zut alors... Je vais l'arrêter. Donc, on va mettre les souris là-dedans. On va regarder, et puis on va les mettre plusieurs fois. On va regarder à quelle vitesse elles sont capables de retrouver très rapidement la plateforme. Elles vont mémoriser, grâce aux signes qui sont sur le côté, l'endroit où est la plateforme. Et plus on va répéter le texte, et plus elles vont le trouver vite. Et donc, ça permet d'évaluer quelque part la mémoire, en tout cas, en termes de navigation spatiale. Hein. Donc, voilà, on va mettre les souris, pardon. Donc, les souris, ça nage très, très bien, hein. Donc vous allez voir la souris qui arrive, hop, voilà le monsieur qui met la souris. Les souris de laboratoire, elles sont très contentes d'être manipulées, ça ne les dérange pas du tout. Et la souris, elle nage. Bon, elle nage, elle va nager jusqu'à ce qu'elle trouve la plateforme. Donc elle va la trouver là bientôt. Vous voyez comme ça nage bien. Là, elle va faire demi-tour, elle a craque, elle va trouver la plateforme. Voilà. Et là, elle est contente parce que, bon, même si ça nage très bien, les souris, ça préfère quand même avoir pied. Hein. C'est un peu comme nous. Hein. Voilà. Donc après, on retire la souris, on a enregistré tout ça, on mesure tous les paramètres, la vitesse, le temps, etc., etc. Une fois qu'on a fait ça, les pauvres souris, on les sacrifie et on fait des coupes dans leur cerveau. Et ce qu'on va rechercher dans les différents groupes, c'est, on leur a injecté de la BRDU avant, j'ai oublié de vous dire une chose importante ici, elles vont faire de l'exercice pendant 45 jours. Hein, c'est long. C'est pas une manip en une journée. Hein, c'est 45 jours d'entraînement. Hein. Et là, on va compter les cellules qui apparaissent, les cellules qui prolifèrent dans tous les groupes. Donc ça, c'est un gros plan que je vous ai pris parce qu'ici, on voit rien. Et puis, on va pouvoir également compter le nombre de neurones qui sont formés dans les différents groupes. Alors, voilà les résultats. Ça, c'est le nombre de cellules qui ont capté la BRDU, donc le nombre de cellules nouvellement générées. Et ce qu'on voit très clairement, c'est que chez les jeunes, bon, il y en a, d'accord, mais chez les jeunes qui ont couru, qui avaient des roues, il y en a beaucoup plus. Chez les vieux, bon, il y en a beaucoup moins, ça c'est la mauvaise nouvelle, mais si vous courez, regardez, vous en avez quand même beaucoup plus aussi. Après, si vous regardez le nombre de neurones, ben, c'est un peu la même chose, vous en avez un certain nombre chez les jeunes. Ceux qui ont couru en ont quand même davantage. Les vieux qui n'ont pas couru, bah, c'est pas terrible. Et puis, les vieux qui ont couru, ils en ont quand même un petit peu plus. Vous voyez, un facteur 2,5 ici. Hein. Donc, ça finit par faire du monde, hein, à la fin. Voilà. Donc, ça, c'est les résultats. Et puis ensuite, si on regarde donc les différents paramètres qui sont liés à l'expérience que je vous ai montrée tout à l'heure, eh ben, ce qu'on voit, c'est que le temps de latence diminue assez vite. Ça, c'est le nombre de tests qu'on a fait. 1, 2, 3, 4, 5 tests, hein, et on voit que le temps de latence il diminue avec la répétition du test, sauf chez les vieux qui n'ont pas couru. Ben, les vieux qui n'ont pas couru, ça reste assez haut. La longueur du trajet, pareil, hein, Très vite, les jeunes, ils vont retrouver la plateforme, donc ils font moins de distance. Et puis les vieux qui n'ont pas couru, ils font beaucoup plus de trajets pour y arriver. La vitesse, pareil, la vitesse est élevée chez les jeunes, mais les vieux qui n'ont pas couru, pas terrible. Et ça, c'est une expérience où on a enlevé la plateforme, donc les animaux, ils sont un peu désorientés, mais ils vont avoir tendance à passer plus de temps dans la région où on avait mis la plateforme avant. Et là, on regarde et on voit que les jeunes qui ont couru, ils passent beaucoup plus de temps dans cette zone-là que les autres. Donc, qu'est-ce que ça montre tout ça? Ça montre que l'activité physique a un impact sur les performances mnésiques. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi, hein? Voilà, bon. Alors, ça, c'est chez la souris. Comment on ne peut pas faire chat chez l'homme? On ne va pas faire nager les gens pendant... Alors, ce qu'ils ont fait ici, c'est un travail, un des rares travaux qui existent chez l'homme. Ils ont utilisé la technique de la RMN qui permet donc la résonance magnétique nucléaire. C'est là où on vous met dans un gros tuyau, puis on enregistre votre cerveau. Et avec ça, on peut faire des reconstitutions spatiales et mesurer des volumes d'une région. Et donc, ils ont fait ça. Ils ont pris une région qui fait de la prolifération, l'hippocampe, et puis deux régions témoins qui n'en font pas, le thalamus et le noyau caudé, qui sont des régions voisines, mais où on n'a jamais repéré de prolifération. Et ce qu'on voit, que ce soit du côté droit et du côté gauche, après avoir fait faire du stretching aux gens pendant, c'est long, c'est l'expérience de ces 2 ans et demi, là. 2 ans et demi, donc ils ont pris des sujets qui font régulièrement du stretching et d'autres qui n'en font pas. On les enregistre avant et on les enregistre après, et on voit que il y a une augmentation de la taille de l'hippocampe chez les sujets qui ont fait du stretching. Voilà. Alors, donc, l'exercice semble également stimuler la neurogénèse adulte chez l'homme. Ça, c'est de plus en plus acquis. Voilà. Sachant que c'est très difficile toujours de travailler chez l'homme. Hein. Surtout chez les sujets âgés qui ont tendance à mourir en cours d'expérience. Non, je retire ce que j'ai dit, excusez-moi. Alors, d'accord, on fait de l'exercice. Qu'est-ce que c'est qui va faire que cet exercice va stimuler la neurogénèse adulte? Il y a tout un tas de molécules candidates. Il y en a une qui est très intéressante. C'est un article qui a été publié il n'y a pas très longtemps, en 2019, dans un très bon journal, ce qui parle des cellules souches. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait courir des souris, toujours pareil. Et puis, ils se sont intéressés à un facteur qui est libéré par les plaquettes. Vous savez, les plaquettes, c'est ces cellules sans noyau que vous avez dans le sang, qui servent à la coagulation et à des tas d'autres choses. Et quand ces cellules sont stressées, elles s'activent, on appelle ça l'activation des plaquettes, et là, elles se mettent à libérer encore en plus grande quantité des facteurs. Et notamment, un facteur qu'on appelle le platelet factor 4, PF4, et il semble que ce facteur, donc, soit libéré en plus grande quantité au cours de l'exercice physique, ça, on en est certain de ça, et on pense qu'il passe dans le sang et qu'il va aller activer la prolifération des cellules. Ça a été montré de plusieurs manières. D'une part, ils ont injecté chez des souris normales du platelet factor. Ils ont vu qu'il y avait plus de neurogénèse dans le gyrus dentelé. Et d'autre part, ils ont fait l'expérience inverse où ils ont empêché les souris de fabriquer du platelet factor 4 en faisant de la transgénèse. Ils ont inactivé le gène. Ces souris ne fabriquent plus ce facteur. Et quand on les fait courir, on voit qu'il n'y a pas plus de neurogénèse qu'avant. Donc ça, c'est une preuve quand même assez importante du rôle de ce facteur-là. Mais il y a plein d'autres candidats, hein, je ne vais pas tous les passer en revue, mais il y a un certain nombre de facteurs de croissance, comme l'IGF, vous avez dû entendre parler de l'IGF déjà, c'est un facteur qui est important dans la croissance et la prolifération. Tous les facteurs de croissance, en fait, IGF ici, BDNF, c'est un facteur de croissance cérébrale, VEGF, vasculaire endothélium, gros facteur, tous ces facteurs-là ont été montrés peu ou prou pour stimuler certains aspects de la prolifération ou de la neurodifférenciation, etc., etc. Donc voilà, c'est les pistes, hein, c'est tout ça, c'est maintenant, hein, que tout ça se fait, hein, on n'en sait pas plus, hein. Un petit mot sur les antidépresseurs, donc ça c'est un travail chinois, où ils ont pris de la fluoxétine. La fluoxétine, c'est le principe actif du Prozac, la pilule du bonheur, vous savez, on prend du Prozac et on est heureux. Hein, donc ça c'était la couverture de Time quand le Prozac est sorti. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont donné du Prozac à des animaux et ils ont regardé, toujours pareil, le nombre de cellules formées dans le gyrus dentelé. Et ils ont montré qu'il y en avait plus chez les animaux qui prenaient du Prozac, évidemment, avec le délai de latence que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Comment ça marche, le Prozac? C'est ce qu'on appelle un inhibiteur de recapture, et en l'occurrence, un inhibiteur de recapture de la sérotonine. Quand la sérotonine arrive dans une terminaison axonale et qu'elle va aller agir sur le neurone d'après, au niveau des synapses, elle est libérée dans la fente synaptique, mais pour éviter qu'il y ait une surstimulation du neurone postsynaptique, il y a des processus de recapture de ces neurotransmetteurs. Il y a des petites vésicules qui sont recaptées par le neurone et qui font qu'il ne va pas y avoir d'excès de sérotonine qui va rester dans la fente synaptique. La fluoxétine, ça bloque ça. Ça veut dire que la sérotonine va rester plus longtemps dans la fente synaptique. Donc, vous allez avoir plus de sérotonine dans votre cerveau. D'accord ? Et la sérotonine, on sait bien que ça stimule l'activité neurogénique. Voilà. Donc, ça, c'est le cas des AVC. On sait qu'il y a plus de neurones. Il y a des neurones qui sont produits près des lésions. Quand on a une AVC, une ischémie ici, vous avez des nouveaux neurones qui se forment. Malheureusement, la plupart de ces neurones vont mourir très rapidement. Un petit mot, donc je vous ai parlé des facteurs favorables. Un petit mot sur les facteurs défavorables. Oh là, je suis un peu trop bavard. Facteurs défavorables, il ne faut pas s'irradier, mais ça, tout le monde le sait. L'inflammation, le vieillissement, le stress, l'alcool et les drogues, et évidemment les maladies neurodégénératives. Alors, dans tout ça, je peux vous parler, par exemple, de l'alcool. Ça, c'est très important parce que vous avez tous des enfants, des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants qui sont adolescents et qui ont tendance à consommer de l'alcool en quantité non raisonnable à un âge où il ne faut pas en consommer. Donc là, c'est l'expérience encore chez le rat où on a injecté... On leur donne, les rats, c'est alcoolique. Hein, vous leur donnez de l'eau alcoolisée. Ils préfèrent ça. Ils préfèrent l'eau alcoolisée à l'eau non alcoolisée. Donc, c'est un peu comme nous, quoi. Hein. On n'a rien inventé. Hein. Bon, et ben, si vous alcoolisez les rats et que vous comptez les neurones en prolifération ou les neurones nouvellement formés, vous voyez que vous en avez moins. C'est les petites barres jaunes par rapport aux témoins. Ça, c'est les cellules gliales. Ça, c'est les neurones. On en a moins dans tous les cas. C'est toujours les mêmes techniques. On regarde la prolifération cellulaire et la formation de nouveaux neurones ici. Donc voilà, il faut boire de l'alcool, mais en quantité raisonnable. Et là, c'est une autre expérience que je vais vous montrer, qui est très importante, parce que ça parle du binge drinking. Vous savez, le binge drinking, c'est cette manie qui a été développée dans les pays anglo-saxons, où on se prend des cuites phénoménales régulièrement, une fois ou deux fois par semaine. Alors, il y a des gens qui ont essayé de faire un modèle de binge drinking chez le... Je ne sais plus si c'est des rats ou des souris, enfin, peu importe. Ils ont fait un modèle, ils ont des témoins, ils voient plein de prolifération chez les témoins, et ça, c'est les animaux qui ont picolé grave, qui ont fait du binge drinking, et on voit qu'on a quand même une baisse très importante, enfin très significative en tout cas, de l'activité de prolifération et de genèse de nouveaux neurones. Mais encore plus grave, c'est que si on regarde des acteurs de l'apoptose, c'est-à-dire de la mort cellulaire programmée, on voit qu'on a une augmentation après l'alcool. Et la conclusion de cet article, c'est que la mort cellulaire dans l'hippocampe de ces souris est plus importante que la naissance de nouvelles cellules, ce qui conduit à une neurodégénérescence de l'hippocampe qui sera irrécupérable, irréversible. Donc, le conseil, c'est éviter le binge drinking. D'accord ? Vous pouvez dire ça à vos petits-enfants. Ça, je vais passer. Ça, c'est juste pour montrer qu'avec l'âge, c'est un travail qu'on a fait chez le petit poisson zèbre, qui est une espèce modèle, où on a regardé le nombre de cellules en prolifération au cours du temps, donc ça faisait 3 mois, 6 mois, 9 mois, etc. Et on voit que dans toutes les régions qu'on a étudiées, on a une chute relativement importante, mais qui, quand même, on a une prolifération quand même qui reste élevée chez les adultes. Sachant que le zébrafiche, ce n'est pas un poisson qui va grandir éternellement, c'est un petit poisson. Bon, au bout d'un moment, il ne grandit plus. Juste un mot pour vous dire qu'il y a d'autres régions dans le cerveau où on a trouvé des cellules en prolifération. Le striatum, qui est une région qui est importante pour la prise de décision, pour le contrôle du mouvement. Voilà. Et puis également l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est ce qu'on a au-dessus de l'hypophyse. C'est un peu ce qu'il y a sur l'intendance du corps. Et on a trouvé également des cellules en prolifération là, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors évidemment, après tout ce que je vous ai dit... Il y a des cellules souches dans le cerveau. Est-ce qu'on peut en tirer un bénéfice pour de la médecine régénérative? Et on pense en particulier la maladie de Parkinson. Là, il y a énormément d'études qui sont faites. Il y a même des essais de cliniques en phase 3 qui sont conduits à l'heure actuelle dans différents pays. La maladie d'Alzheimer, malheureusement, on ne la comprend pas très bien. La sclérose multiple. La chorée d'Huntington, ça c'est la dégénérescence de neurones GABAergiques. On peut éventuellement utiliser des greffes de neurones GABAergiques. Ça a d'ailleurs été fait. Et puis évidemment, il y a tout ce qui est atteinte de la moelle épinière. Est-ce que si on injecte des cellules souches, elles vont pouvoir pousser et aller rejoindre des muscles? Bon, on ne sait pas. Les accidents vasculaires cérébraux, j'en ai déjà parlé. Stratégie pour la médecine régénérative, et je finirai avec ça. Il y a deux stratégies, ou bien on transplante des cellules souches, sauf qu'il faut avoir des cellules souches en quantité pour les injecter, et on ne peut pas injecter n'importe quelle cellule souche, on ne peut pas injecter les cellules souches de M. X à M. Y, parce que le système immunitaire va rejeter les cellules de M. X chez M. Y. Donc, maintenant, il y a des nouveaux processus qui permettent de fabriquer des cellules souches en quantité illimitée. Donc, c'est grâce à M. Yamanaka. M. Yamanaka, c'est un japonais, comme son nom l'indique d'ailleurs, on ne peut pas faire plus japonais que ça. Il a eu le prix Nobel en 2012. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il a montré que si vous prenez des cellules différenciées, comme de la peau, des fibroblastes, vous les mettez en culture, vous rajoutez 4 protéines qui sont marquées là, ACT3, ça c'est des protéines qui sont impliquées dans le maintien du phénotype de cellules souches. Ces cellules-là vont se dédifférencier et vont redonner des cellules souches. Avec ces cellules souches-là, vous pouvez les retraiter pour les faire différencier en cellules de peau, cellules de cœur, en cellules, en neurones éventuellement. On sait très bien faire ça en laboratoire. On sait très bien générer des neurones en quantité à partir de cellules souches reprogrammées. Ça, c'est ce qu'on appelle des cellules souches induites. Ou alors essayer de stimuler la prolifération de cellules souches résidentes, mais il y en a tellement peu qu'à mon avis, ce n'est pas la peine. On perd son temps. Donc voilà les stratégies qui sont actuellement étudiées dans tout un tas de laboratoires et qui peut-être un jour pourront être utilisées pour traiter des maladies comme le Parkinson. C'est probablement la première maladie qui sera soignée avec des cellules souches. À Bordeaux, il y a un laboratoire qui s'appelle Trifrog, les grenouilles arboricoles, là, il s'appelle Trifrog, je ne sais pas pourquoi. Ils fabriquent des millions et des millions de neurones dopaminergiques pour traiter la maladie de Parkinson. Et ils vont rentrer dans des essais de clinique de phase 3. C'est le laboratoire qui est capable de produire la plus grande quantité de cellules nerveuses au monde. Mais il y a d'autres pistes aussi. Ça, c'est pour la réparation en cas d'accident vasculaire cérébral. On peut essayer d'injecter, mais pour l'instant, on ne sait pas trop le faire. Et ça, il n'y a pas d'essai clinique de ça. Donc, je finis. Take home message, c'est ce que vous devez retenir. Votre cerveau produit des nouveaux neurones tous les jours dans certaines régions, y compris chez le sujet âgé, y compris chez les malades atteints d'Alzheimer. C'est juste qu'ils en font moins. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher l'affaire. On peut toujours essayer de stimuler, y compris chez les Alzheimer. Ce mécanisme, c'est un mécanisme tout à fait normal qui permet aux organismes de s'adapter constamment à leur milieu naturel, enfin d'essayer en tout cas. Hein. Voilà. On peut stimuler la neurogénèse adulte par des exercices physiques, mais attention, l'exercice physique à lui tout seul ne suffit pas. L'exercice physique va stimuler la prolifération des cellules. Après, si vous voulez que ces cellules servent à quelque chose, il faut qu'il y ait un apprentissage derrière pour que ces cellules établissent des connexions avec d'autres systèmes. Et donc là, c'est important de varier les activités intellectuelles, milieu enrichi, lecture, mots croisés, sudoku, cinéma, n'importe quoi, mais il faut faire travailler les deux, les jambes et la tête. Éviter le stress, on sait malheureusement que le stress, le cortisol, est très délétère pour la neurogénèse adulte, l'alcool, les drogues, yannida. Le vieillissement, on ne peut rien y faire. Alors, si vous allez sur Internet, vous allez trouver tout un tas de gens qui vont vous proposer des molécules pour éviter le vieillissement. Je peux vous dire tout de suite que ça ne marche pas. Et il y a même un scientifique russe qui s'est injecté des bactéries préhistoriques. Ça avait fait les grands titres à l'époque, mais c'est vraiment du foutage de gueule. Bon. Par contre, ce que vous pouvez faire, et vous pouvez aller danser. Alors, je vous montre la dernière expérience que je vous montre. C'est des gens qui ont, c'est des Suédois, parce que les Suédois sont très attentifs à la personne, ils prennent soin les uns des autres, sont beaucoup dans la bienveillance, et alors ils veulent que les gens vieillissent bien. Alors ils ont fait ce travail chez des gens qu'ils ont fait danser pendant 6 mois. Il y a des gens qui dansent et des gens qui dansent pas. Et après, on mesure des paramètres cognitifs et moteurs. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà les résultats. Donc là, ici, c'est les gens qui ont dansé. Ici, c'est les gens qui n'ont pas dansé. En bleu, c'est avant l'exercice. Et en rouge, c'est après l'exercice. Qualité de vie. Donc ça, c'est des questionnaires. Hein. On leur demande s'ils sont heureux, s'ils sont contents, etc. Bon, on voit que la plupart des danseurs, ils ont trouvé que c'était mieux. Cognition, c'est des tests cognitifs, des tests de QI, des choses comme ça. Hein. Voilà. Intelligence, bon, vous êtes nœud au départ, vous êtes nœud à l'arrivée. Temps de réaction, ça c'est les réflexes, et on voit que sur les réflexes, la danse a un effet bénéfique. Hein. Ça c'est quelque chose qu'on peut mesurer objectivement. Hein. C'est pas comme l'intelligence où... Donc ça, on a un effet très net. Posture, ça c'est l'équilibre, la capacité à garder des postures. Contrôle manuel, ça c'est on vous donne une petite manette et puis vous suivez des courbes sur un écran. Bon, mais on voit que ça améliore aussi. Sensibilité tactile, on vous touche avec des petites épingles, puis vous devez dire quand est-ce que vous sentez quelque chose ou pas. On voit que sur tous ces paramètres-là, chaque fois que vous avez une petite barre avec une étoile, les danseurs s'en sortent mieux que les autres. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais c'est le seul travail que j'ai trouvé sur la danse. Hein. Et je pense que la danse, c'est vraiment un exercice complet. Moi, je dansais avant, maintenant je ne peux plus parce que j'ai plus d'oxygène. Mais la danse, c'est très. Vous avez des implications cognitives, vous avez des interactions sociales, des interactions émotionnelles, hein. Vous tenez quelqu'un dans vos bras, etc. Exercice physique, coordination, bien-être, la danse est extrêmement bénéfique. Donc, moi, j'ai un message, allez danser. Voilà. Et je voudrais quand même finir sur Santiago Ramón y Cajal, parce que j'ai commencé avec lui. Il n'était pas vraiment convaincu qu'on ne pouvait rien changer dans le cerveau, parce qu'en 1897, dans un livre, il a écrit « Tout homme, s'il en a l'envie, peut être le sculpteur de son propre cerveau ». Donc, il devait quand même se poser des questions, parce qu'on a du mal à comprendre si le cerveau est complètement figé, comment il va pouvoir évoluer dans la vie avec ça juste, ça marche pas, quoi. Hein. Donc, il faut que le cerveau change et s'adapte en permanence. Ça paraît important. Voilà, j'ai fini.
Bon, eh bien, merci infiniment. Il va falloir qu'on réfléchisse longuement à ce que vous nous avez expliqué.
Oh, c'est très simple, vous avez dansé.
Allez danser.